Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které všichni přijde...
Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС...
La guerre de Corée se poursuit, sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Tejon.
Acting therefore in defense of our own security and of the entire Western Hemisphere and under the authority of...
Dotyczyły one spraw bardzo ważnych.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Pendant ses 28 ans, il se montra l'une des figures maîtresses d'un univers en état de crise. À Téhéran et à Yalta, il devait être en même temps que l'un des grands vainqueurs, l'un des constructeurs du monde d'après-guerre. Et la conférence de Potsdam marqua l'heure la plus haute de son destin. Viendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne?
Le 5 mars 1953, Staline meurt. Si le deuil saisit ceux qui le considèrent comme le petit père des peuples, ses détracteurs s'interrogent sur l'avenir de la guerre froide en équilibre précaire sur la dissuasion nucléaire. Quel visage aura le monde sans le fondateur du bloc communiste? Emilia Robin.
Dès la mort de Staline, une série de mesures de libéralisation sont prises dans différents domaines qui frappent énormément. Par exemple, dès la fin du mois de mars, donc on n'est même pas un mois après la mort de Staline, le décret Vorochilov aboutit à la libération de presque 1 million de prisonniers du goulag, qui étaient souvent des soldats russes de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient vu l'Occident et avaient été déportés ensuite pour avoir vu l'Occident, en fin de compte, au goulag, ainsi que différentes personnes accusées de à tort, plus souvent évidemment de sabotage ou d'espionnage au profit de l'étranger, etc. Donc presque 1 million de prisonniers du goulag reviennent. Sur le plan intérieur, Beria, Malenkov et Khrouchtchev s'imposent comme étant les trois personnes dominantes, même si évidemment il y a toujours Molotov qui reprend les affaires étrangères alors qu'il en avait été écarté. Sa femme Jenshoujina, qui était au goulag depuis 4 ans, est libérée et revient. Sur le plan international, on est à la fois curieux, inquiet, dans l'expectative, et en 52 on craignait que l'on soit ou à la veille d'une troisième guerre mondiale. Et l'on voit une série de petits signes. À Berlin, il y avait eu des incidents aériens. L'on propose une commission technique pour améliorer les choses. La guerre de Corée avait commencé en juin 50. Elle était en guerre de position depuis 51. Désormais, les négociations, au moins pour une armistice, semblent se débloquer et de fait aboutiront au mois de juillet. À l'ONU, il y avait la question de l'élection d'un nouveau secrétaire général. L'URSS cesse de faire obstruction. En Iran, il y avait les problématiques locales d'accès aux ressources. L'URSS se montre plus conciliante. Il y avait sur un plan consulaire des questions de visa, de représentation diplomatique occidentale à Moscou. Moscou, d'un seul coup, accepte l'établissement d'ambassade et la construction de bâtiments. En Autriche, qui était occupée à 4 depuis 1945, avec une capitale partagée en 4 comme Berlin, en 4 zones, les contrôles systématiques sont, entre la zone soviétique et les 3 autres zones, sont allégés. En Turquie, il y avait des problèmes de détroit et de différentes questions en conflit avec la Turquie. Cela se débloque. Et donc, sur différents petits dossiers qui étaient des dossiers litigieux et des points de fixation et de crispation dans cette guerre froide globale, l'on voit les choses se débloquer et toute la question est à quoi a-t-on affaire? Ce que l'on voit très vite apparaître dès 53-54, c'est l'essor de Khrouchtchev, qui était assez peu connu auparavant, mais qui s'impose progressivement dans ces années 53 à 56 comme le leader de l'URSS, en éliminant progressivement ses adversaires. D'abord en s'alliant avec Malenkov, en éliminant Beria, et puis progressivement en éliminant Malenkov en février 55, Molotov en juin 56, et l'un et l'autre en 57 sont définitivement écartés. Malenkov, qui a été président du Conseil, se retrouve directeur d'une centrale hydroélectrique, et Molotov, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant des années, se retrouve ambassadeur en Mongolie extérieure. Les multiples signes du printemps 53 laissent penser qu'il y a une inflexion de la politique extérieure soviétique et que l'on va vers une forme de détente. On ne parle pas encore de détente, on parle à l'époque d'une offensive de paix. Très vite, on propose une grande conférence à quatre à Berlin, c'est-à-dire les quatre occupants de l'Allemagne, qui sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'URSS. Pour résoudre les problèmes urgents du moment qui sont le problème allemand. L'Allemagne est toujours divisée et en fin de compte, c'est plutôt au printemps 55 que la détente à proprement parler commence. Mais ces années 53-55 sont des moments d'exploration mutuelle du changement international. Du point de vue intérieur, les premières mesures post-staliniennes sont des mesures politiques du type libération de prisonniers, baisse des prix qui se retentit immédiatement sur le niveau de vie des soviétiques, même si la production ne suit pas encore. Et l'on va progressivement avoir également un allègement de la censure, la possibilité, c'est anecdotique, mais pour des étudiants soviétiques d'être représentés au congrès de l'UNEF. Ça a l'air complètement secondaire, mais des soviétiques n'avaient pas pu sortir du RSS pour un prétexte comme celui-ci depuis des années. L'URSS annonce que l'on pourra faire du tourisme en URSS, qui est également nouveau. Il y a encore que 5 ou 6 000 touristes occidentaux ou étrangers en URSS dans ces années 53-55. Donc c'est une évolution progressive. Et sur le plan intérieur, les mesures vont aller vers un encouragement d'une part à l'agriculture, c'est les fameuses grandes campagnes de Khrouchtchev des terres vierges pour produire davantage de maïs, de coton. Dans certains cas, ce sera des catastrophes écologiques, dans d'autres cas, ce donnera des bonnes récoltes. L'on va se réorienter vers l'industrie de consommation, améliorant le confort global des soviétiques. Et puis tout simplement, le contexte général a changé. Depuis 1945, la reconstruction dure depuis 10 ans, mais les grandes traces des destructions de guerre sont dans l'ensemble effacées. Et donc, la reconstruction étant terminée, on peut élever globalement le niveau de vie soviétique. Et les mesures de Khrouchtchev sur tous les plans entraînent un immense enthousiasme dans les jeunes générations qui n'ont connu que Staline et voient dans ces... Ce n'est pas encore un socialisme à visage humain, comme on disait pour en Tchécoslovaquie en 68, mais c'est une version rénovée, épurée, débarrassée de ces abus qu'on en explique par la personne de Staline, par la Seconde Guerre mondiale, par les besoins de la construction accélérée, et l'on espère avoir une version plus équilibrée et plus positive du communisme soviétique, d'où les espoirs qui accompagnent l'essor de Khrouchtchev. Mais à la mort de Staline, on ne sait pas.